Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Monnery, j'habite à Saint-Étienne. Malheureusement, vous êtes lyonnais, mais c'est pas grave. Heureusement, le Seigneur a brisé les murs qui nous séparaient, et dans le corps de Christ, nous sommes tous unis en lui. Je suis marié à Rebecca, nous avons deux filles, Anaëlle qui a 2 ans, et Thaïs qui a 5 mois. Vous pourrez faire leur connaissance au cours du week-end. Et je travaille actuellement à temps plein comme évangéliste avec France Évangélisation. Donc une œuvre qui a pour but la proclamation de l'Évangile en France, en francophonie, la multiplication du ministère d'évangélistes, et puis la formation dans les églises, aider les églises à penser à propos de l'évangélisation. Je suis aussi impliqué dans l'équipe pastorale d'une petite église à Saint-Étienne, et puis je suis toujours étudiant en théologie sur une partie de mon ministère pour compléter ma formation. Ce week-end, nous allons nous intéresser à l'évangélisation, avec ce thème « L'évangélisation dans l'église ». Assumer, partager, déléguer. Et ma posture aussi en vous parlant ce matin, c'est pas d'arriver en disant voilà, je suis évangéliste, je sais, et voilà comment vous devez faire, mais c'est plutôt que ensemble, dans une attitude humble, comme nous l'avons chanté, nous puissions nous prosterner ensemble devant Dieu, et puis écouter ce qu'il a à nous dire par sa parole, apprendre ensemble. Je suis étudiant, vous l'êtes aussi, on est appelé toute notre vie à étudier pour comprendre davantage Christ. Et c'est ce que je vous invite à faire au travers de ce week-end. L'évangélisation dans l'Église, assumer, partager, déléguer. La première chose que serait bon de se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est que l'évangélisation ? Et un document fondateur du monde évangélique, la Déclaration de Lausanne, définit l'évangélisation ainsi. Évangéliser, c'est répandre la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts selon les Écritures, qu'il règne en Seigneur et qu'il offre maintenant à tous ceux qui se repentent et croient le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Annoncer que Christ, qui est Dieu de toute éternité, est venu, qu'il s'est incarné, qu'il est mort pour les péchés de l'humanité, qu'il est ressuscité selon les Écritures et que Dieu l'a couronné. Il est Seigneur, il règne. Et pour tous ceux qui se repentent et croient, il offre le salut et le don du Saint-Esprit. Dans la Bible, il est très difficile de distinguer entre l'évangélisation et la mission. Aujourd'hui, souvent, on aime parler de l'évangélisation quand ça concerne notre famille, nos voisins, le quartier autour de notre église. Et puis la mission, c'est tout ce qui est trop loin pour nous. Mais la réalité, c'est que dans la Bible, on ne peut pas distinguer les deux. Et donc, du coup, pendant ce week-end, je parlerai des deux de manière un petit peu interchangeable, puisque l'évangélisation, comme on va le voir ce matin, est pour toutes les nations, toutes les tribus sur cette terre, ça veut dire auprès comme au loin. Alors, est-ce que l'évangélisation, cette annonce de la bonne nouvelle, doit être assumée, partagée ou déléguée? Et ma réponse au travers de ce week-end, ça sera les trois. L'évangélisation doit être d'abord assumée, et lorsqu'elle est bien assumée, eh bien on peut aussi la partager et on pourra aussi la déléguer. Mais c'est d'abord dans cet ordre-là que ça doit se conduire. Et ce que je vous propose, c'est au travers des 3 messages. Ce matin, nous allons nous intéresser à l'évangélisation en général, au travers de l'appel que Jésus adresse à ses disciples d'entrer dans la mission. Et puis ce soir, nous nous intéresserons aux différents rôles qui peuvent être intégrés dans l'évangélisation, notamment le ministère d'évangéliste, et puis notre rôle à chacun de témoin. Et puis demain, nous regarderons l'exemple d'une église du Nouveau Testament, à savoir l'église d'Antioche, et comment cette église a pu assumer l'évangélisation, la partager et aussi la déléguer quand c'était nécessaire. Donc voilà un petit peu le menu pour notre week-end. On va aller au pied de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de l'Écriture, et je souhaite que, comme on l'a chanté, on puisse avoir cette attitude humble de dire « Seigneur, façonne-moi, brise-moi si c'est nécessaire, transforme-moi ». Souvent, c'est des choses qu'on chante un petit peu à la légère, et pourtant, on va voir que parfois, ça a vraiment un impact quand on chante ces choses-là. Et il peut y avoir aussi un coût, et j'espère que, en tant que disciple de Christ, vous êtes aussi prêts à accepter le prix que Dieu peut attendre pour vous. Alors, on va se tourner vers l'Écriture, on va ouvrir la Bible dans Matthieu au chapitre 28, et on va lire les versets 16 à 20. « les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un texte qui est connu, souvent quand on parle d'évangélisation, c'est certainement le premier texte auquel on pense. Et pourtant, je crois que s'il est connu, c'est aussi parce qu'il mérite qu'on y revienne souvent. Bien sûr, pour le méditer, certainement pour le mémoriser, sans doute un certain nombre parmi vous auraient pu le citer par cœur, mais surtout pour le mettre en pratique dans nos vies, que ça se traduise par des implications concrètes. On va regarder en détail ce texte de manière linéaire, et puis on s'arrêtera sur les différentes choses que nous apprenons sur l'évangélisation. La première chose que nous apprenons sur cet ordre missionnaire, sur l'évangélisation, c'est que ça concerne des disciples. Si vous regardez au début du texte, verset 16, il est dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » C'est intéressant parce que Matthieu aurait pu dire « Les 11 apôtres ». Ça aurait été vrai aussi. Mais il a choisi de les appeler « Les 11 disciples ». Parce qu'ils ne sont pas allés sur la montagne en leur qualité d'apôtres. Ils y sont allés en leur qualité de disciples, représentant l'Église universelle de l'époque. L'Église avait rendez-vous avec Jésus sur la montagne et ils y allaient en tant que disciples. Disciples, des gens qui suivent, des gens qui apprennent à l'écoute d'un maître, des gens qui avaient suivi Jésus pendant 3 ans. Les disciples sont ceux qui sont en relation avec un leader, quelqu'un qui montre une direction, qui guide. Ils écoutent ce leader, partagent sa vie, ont une relation intime avec lui et ils lui obéissent. Ce qui est intéressant dans le Nouveau Testament, c'est que le mot chrétien apparaît seulement 3 fois, alors que le mot disciple apparaît 296 fois. Ce qui veut dire que le Nouveau Testament désigne le peuple de Dieu d'abord comme des disciples et seulement ensuite comme des chrétiens. Et c'est parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ que nous pouvons être appelés chrétiens. Chrétiens, nous portons le nom de Christ. Littéralement, chrétien, ça veut dire petit Christ. On verra demain que la première fois où les disciples ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche. Et en fait, c'était une moquerie. Ils ressemblaient tellement à Jésus qu'on disait « Regardez les petits Jésus !» Et on les a appelés chrétiens. Et la question que je me pose, c'est quand nous nous appelons chrétiens, est-ce que c'est parce qu'on ressemble tellement à Jésus ou est-ce que c'est simplement parce que c'est devenu une sorte de marque de fabrique? Mais la réalité, c'est que pour le Nouveau Testament, c'est d'abord parce qu'on est un disciple qu'on est digne de porter le nom de Jésus. Disciple, ça implique une intimité, une relation proche. Ça implique de se nourrir des paroles du Maître. Ça implique d'être prêt à le suivre sur le chemin où il a marché. Ça implique surtout de lui obéir. Jésus dira plusieurs fois, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ?» Si nous venons ici en tant que disciples, c'est que nous reconnaissons que notre vie ancienne est passée. Nous suivions notre propre voie, et un jour, Christ nous a sauvés, et depuis ce jour-là, c'est lui qui a l'autorité dans notre vie. Lors de la création, Dieu était le roi de ce monde, et l'homme le vassal. Et nous savons qu'à la chute, cette relation a été inversée. L'homme a pris la place de Dieu. Mais lorsque nous devenons disciples, Christ reprend cette place-là. C'est lui qui a l'autorité et c'est lui qui commande. Ça veut dire qu'en tant que disciples, nous devons être prêts à obéir. Jésus dira également que le disciple doit être prêt à prendre sa croix, à le suivre sur le chemin du brisement, de l'humilité, de la mort. Finalement, le disciple est une identité fondée sur Jésus. Parce que nous mourons avec lui, nous pouvons aussi ressusciter avec lui et vivre cette vie nouvelle en lui. Cela veut dire que lorsque nous regardons ce texte qui concerne des disciples, nous devons avoir tout cet arrière-plan à l'esprit. Venir en disant, nous voulons t'écouter, maître, toi qui es digne, parce que tu es mort, et que tu es ressuscité, et que tu nous invites à ta rencontre. Tu nous donnes rendez-vous sur la montagne. Nous n'y allons pas de nous-mêmes. Nous y allons parce que toi, tu nous as invités. Tu nous as rendus dignes de venir. Nous n'étions pas dignes de prendre part au royaume de Dieu. Mais tu nous invites. Alors nous venons et nous t'écoutons. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. L'évangélisation est pour les disciples. Et l'évangélisation découle de l'adoration du Christ ressuscité. Imaginez les disciples, ils avaient passé 3 ans avec Jésus. Ils avaient vu toute sa vie, ils avaient vu son comportement parfait. Ils l'avaient vu avoir de la compassion pour tous ces gens, les enseigner, les guérir, les nourrir. Ils l'avaient vu aller jusqu'à la croix sans rien dire. Ils avaient vu ce procès injuste où Jésus simplement a accepté de se laisser aller comme cette brebis muette. Et alors qu'ils étaient désespérés, eux qui avaient mis tout leur espoir en lui, 3 jours après, ils l'ont vu, glorieux, ressuscité. Il leur était déjà apparu plusieurs fois, d'abord aux femmes, à Pierre, à Jacques, à tous les apôtres. Et enfin, il leur donne ce rendez-vous ultime. Quand ils le voient, ils l'adorent. Imaginez, leur arrière-plan, les 11 disciples étaient tous des juifs. Et dans l'arrière-plan juif, le seul qui était digne d'adoration, c'était Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est l'unique Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais lorsqu'ils voient Christ ressuscité, ils l'adorent. Lorsque les disciples voient la résurrection, c'est la preuve ultime pour eux que Jésus est Dieu. Il est le Créateur. Il est celui qui soutient le monde. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui vient amener le royaume et qui promet une nouvelle vie avec lui aujourd'hui et dans l'éternité. Il est digne de notre adoration. Si Christ est digne d'adoration, cela veut dire qu'il est Seigneur, qu'il a toute autorité, qu'il décide et que nous devons obéir. Parce que nous contemplons l'œuvre de Christ, que nous sommes éblouis par ce qu'il a fait. Nous aurions dû mourir, mais il nous sauve. Alors nous sommes prêts à rentrer dans sa mission. Quand nous regardons Christ, si vous regardez dans l'Ancien Testament ou dans l'Apocalypse, tous ceux qui ont vu Christ dans sa gloire tombaient en un instant comme morts. Malheur à moi, je suis pécheur. Mais Christ fait grâce. Et à chaque fois, il les relève. Et quelque part, l'attitude de ces disciples, c'est celle d'hommes qui auraient dû mourir devant la sainteté de Dieu. Et parce que Dieu les fait vivre, ils sont prêts à l'adorer, à se prosterner devant lui. Quand ils l'adorèrent littéralement, ils se prosternent, ils soumettent toute leur vie et ils s'engagent à son service. Mais quelques-uns eurent des doutes. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans ce texte? Christ est ressuscité. Il est déjà apparu aux disciples. Il les invite à leur rencontre. Il a marché sur l'eau. Il a multiplié le pain. Il a ressuscité Lazare. Il est ressuscité lui-même. Il l'adore. Et pourtant, quelques-uns eurent des doutes. Et heureusement qu'il y a ça dans ce texte. Parce que les doutes, on connaît. Les doutes, ça nous ressemble. Et parfois, on pourrait croire que l'évangélisation, c'est pour les super-héros. C'est pour ceux qui ont atteint un stade de maturité spirituelle que nous n'avons pas encore atteint. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ça veut dire que l'évangélisation ne s'accomplit pas dans un état spirituel démesuré. L'évangélisation s'accomplit dans notre humanité. L'évangélisation s'accomplit dans la condition dans laquelle Dieu nous a trouvés. Elle s'adresse aux disciples, elle découle de l'adoration et elle s'accomplit dans notre humanité. Les doutes sont réels, mais ils ne sont pas une excuse, parce que Christ est Seigneur. Le texte ne nous dit pas quels étaient l'objet de ces doutes. Et je crois que quelque part, c'est intéressant, parce que sans doute, ils étaient divers. Et sans doute, derrière ces doutes, nous pouvons mettre chacun de nos propres doutes. On peut penser à Pierre qui avait renié Jésus. Et Pierre savait que Jésus allait partir, il l'avait dit, et qu'il enverrait le Consolateur. Pierre avait cette promesse que Dieu lui avait faite, qu'un jour, sur lui, il bâtirait son Église. Mais était-elle digne? Pouvait-il y aller après l'avoir renié? Et tous les autres? Thomas, qui n'avait même pas cru à la résurrection, jusqu'à que Jésus arrive et lui dise: Thomas, mets tes doigts dans les trous. Et Thomas crut. Lui qui n'était pas capable de croire sans voir, comment pouvait-il aller de l'avant? Et tous les autres, ceux qui avaient abandonné Jésus? Après tout, valait-il mieux que le traître Judas? Assurément non. Ils étaient là avec leurs doutes, et sans doute se disaient-ils: nous sommes incapables. Et peut-être que toi aussi, quand tu entends parler d'évangélisation, tu te dis: pas pour moi. Mon frère, il est plus fort. Tel ancien, lui, peut y arriver. Tel autre, ça fait 20 ans qu'il est chrétien. Mais moi, je peux pas. Regardez qui je suis. Avec mes péchés, avec mes doutes, avec mes faiblesses. Mais ce qui nous rassure, c'est que les premiers disciples n'étaient pas meilleurs que nous. L'évangélisation s'accomplit dans notre humanité. L'attitude à laquelle Jésus nous appelle, ce n'est pas de ne plus avoir peur, mais c'est de surmonter nos peurs en ayant la foi en lui, parce que lui est ressuscité. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la conviction qu'une cause est plus grande que nos peurs, et que nous sommes prêts à laisser nos doutes et à regarder à Christ pour s'engager à sa suite. L'impératif qui revient le plus dans l'Écriture, c'est: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Toutes les fois dans l'Évangile, Jésus dit: n'ayez pas peur, à ses disciples. Et à nous aussi, sans doute, qu'il veut nous dire: n'ayez pas peur. Quelques-uns ont eu des doutes, et regardez la réaction de Jésus. Verset 18. Jésus s'approcha. Jésus s'approcha. S'il y avait bien quelqu'un qui aurait pu juger ses disciples, c'était bien Christ. Après tout, quand même, avec tout ce qu'il avait fait pour eux, avec tout ce qu'il leur avait montré, il aurait pu les reprendre, leur dire: mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais Jésus, dans sa grâce, s'approche. Il est toujours prêt à faire grâce. Ils sont disciples, mais ils ont encore besoin de Jésus, d'être transformés par lui, de goûter à lui. Et de la même manière, nous avons besoin dans notre vie de cette proximité, de cette intimité avec Christ. Et l'évangélisation va découler de ça. Ça découle de l'assurance que, malgré mes doutes, je sais que Christ m'accepte tel que je suis et qu'il m'envoie dans sa mission tel que je suis, malgré mes faiblesses. Dieu s'approche, il veut nous communiquer son zèle, son amour. Et lorsque nous passons du temps dans l'intimité avec Jésus, dans la proximité avec Jésus, nous recevons là aussi son amour pour les perdus, qui va nous amener dans l'évangélisation. Et puis Jésus leur parle: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. L'évangélisation s'adresse aux disciples. Elle découle de l'adoration, elle s'accomplit dans notre humanité, elle est liée à notre intimité avec Christ, et elle est possible uniquement parce que Christ a toute autorité. Imaginez si ça dépendait de nous. Mais on peut arrêter tout de suite. Parce que nous sommes comme ses disciples, pleins de doutes, incapables. Mais l'évangélisation ne dépend pas de nous. Elle s'inscrit dans la souveraineté de Dieu qui dirige les temps et les circonstances. Elle s'inscrit dans l'autorité de Christ qui, à la croix, a vaincu la mort, qui a précipité les puissances, les dominations, les autorités sous ses pieds et qui les a livrées en spectacle. Les nations suivaient leur propre voie, mais maintenant le salut est ouvert. Depuis Genèse, il était annoncé qu'un jour la postérité du diable serait précipitée sous les pieds de la prospérité de la femme. Et en Jésus, cette parole-là s'est accomplie. Christ est l'accomplissement de toutes les prophéties qui annonçaient l'ouverture du salut. À Abraham, il était dit: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et maintenant, cela est possible parce que Christ a reçu toute autorité. Parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité, Dieu l'a établi Seigneur. Et Christ est entré dans sa gloire. Il a toute autorité. L'autorité, ça signifie le droit et la puissance de faire ce que l'on souhaite. Et Christ a le droit et la puissance de faire tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre. À ses disciples, il pouvait dire « Toutes les brebis que mon Père a données viendront à moi. Aucune ne se perdra. » Parce que Christ a toute autorité. Nous avons l'assurance que la mission ira jusqu'au bout, parce que Christ a toute autorité. De manière prophétique, nous pouvons ouvrir notre Bible dans l'Apocalypse et voir cette foule immense de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations qui est devant le trône et qui chante les gloires de l'agneau. Et nous savons que cela est certain, parce que Christ a toute autorité. Parce qu'il a autorité, alors je peux rentrer à son service avec confiance, savoir qu'il va m'utiliser comme il le souhaite, puisque la mission est d'abord son œuvre qu'il accomplit dans ce monde par le Saint-Esprit. Jésus avait dit « Quand l'Esprit sera venu, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. » C'est d'abord lui qui est en mission. C'est lui le grand missionnaire. Il nous précède, il agit avant nous, et nous sommes juste des instruments qui rentrons sur ses traces. Aucune nation, aucune tribu n'échappe à l'autorité de Jésus. Cela veut dire que l'évangélisation est possible, mais cela veut aussi dire que Christ est le seul chemin pour le salut de l'humanité. Parce qu'il a toute autorité et que personne d'autre n'a l'autorité, il est le seul qui puisse sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la création n'entend pas la bonne nouvelle de Jésus, quel espoir ont-ils? Hors de Christ, point de salut. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui n'a été donné par lequel nous puissions être sauvés, nous dit Pierre. Parce que Christ a toute autorité. Il est Seigneur et toute langue doit confesser cela. Ça veut nous communiquer un zèle pour ceux qui sont perdus. De dire, mais comment vont-ils pouvoir vivre s'ils ne se tournent pas vers la seule autorité qui est Jésus-Christ? Nous vivons dans une époque de relativisme où l'on voudrait nous faire croire que tous les chemins mènent à Rome. Et parfois, même en tant que chrétiens, nous avons tendance à croire que même si nous n'annonçons pas Christ, Dieu est souverain et il sait au fond que les hommes étaient... Non ! Hors de Christ, il n'y a pas de salut. Christ est l'autorité et son nom seul peut sauver. Ils doivent entendre parce que Christ est Seigneur et en lui seul est le salut. C'est de cette autorité que va découler l'appel qui suit. En grec, ou dans d'autres langues, en anglais par exemple, le verset 19 démarre avec une particule de conséquence. Donc, c'est pourquoi, ainsi, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus a toute autorité, alors nous devons aller. Parce que Jésus a toute autorité, nous pouvons aller. Parce que Jésus a toute autorité, nous savons que nous n'allons pas en vain. Il nous guide, il nous accompagne. L'évangélisation, c'est d'abord d'aller. L'Église est définie depuis les premiers siècles de son histoire comme apostolique. Apostolique, c'est-à-dire envoyée. Apostolos. L'Église est envoyée. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et je crois qu'il y a une vérité profonde à saisir, comme le Père m'a envoyé. Est-ce que nous réalisons tout ce que ça implique? Dieu aurait pu nous sauver peut-être en criant simplement du haut du ciel avec un haut-parleur. Eh oh! Il aurait pu nous parachuter des Bibles. Il aurait pu, je ne sais pas, écrire en lettres de feu un message dans le ciel. Mais Dieu a choisi de ne pas simplement nous envoyer un message, mais de nous envoyer un messager. L'Évangile en chair et en os, incarné dans une personne, dépouillé de sa gloire, rendu en tout point semblable à nous, qui s'est manifesté dans notre humanité avec compassion, pour que nous puissions au travers de lui comprendre l'amour. Et comme lui s'est incarné, comme lui a été envoyé, il nous envoie. Et ça implique à son image de nous dépouiller. De nous dépouiller de nos droits. De nous dépouiller de nos biens. De nous dépouiller de notre image. Et d'être prêt à le suivre sur ce chemin qui descend et qui descend jusqu'à la mort. Ça ne veut pas dire que nous allons tous mourir physiquement en allant évangéliser. Mais ça veut dire que, comme Christ, nous devons être prêts à mourir à nous-mêmes parce que la cause est plus importante que ce que nous avons. Pourquoi nous pouvons nous dépouiller? Parce qu'en lui, nous avons déjà tout. Parce que Christ était héritier de toute éternité. Il pouvait laisser cet héritage pour un temps et se dépouiller pour s'humilier. Cela en vue de la gloire qui allait à venir, nous dit l'Épître aux Hébreux. De la même manière, nous savons que nous avons tout en lui. Nous sommes déjà glorifiés avec lui, co-héritiers avec Christ. Mais sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Et parce que nous avons déjà tout en Christ, parce que nous avons une demeure éternelle que nul ne peut nous ravir, alors nous pouvons nous dépouiller et aller sur ses traces. De la même manière, nous ne devons pas simplement nous contenter d'envoyer un message. Nous devons nous-mêmes être les messagers de l'Évangile, en manifestant la vie de Christ. Ce que les premiers chrétiens ont fait. On les a appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Jésus. Ils manifestaient Jésus dans leur vie. Dans la parabole bien connue du blé et de l'ivraie, Jésus dit ceci, il dit « La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Le champ, c'est le monde. » Nous sommes la semence que Dieu répand dans son champ. C'est intéressant parce que la semence n'est pas simplement la parole que nous donnons. C'est nous-mêmes qui sommes dans le champ, appelés à nous multiplier, comme Christ s'est multiplié dans d'autres disciples. Nous sommes appelés à aller avec compassion, à incarner l'Évangile dans toutes les dimensions de notre vie. Parfois, c'est difficile parce que en Occident, nous venons d'une culture de la raison. Les églises protestantes sont nées à l'époque de l'humanisme, à l'époque de la raison. Et souvent, nous avons une conception de notre foi qui est très cérébrale. Nous aimons faire des confessions de foi et des doctrines bien formulées. Nous savons qu'il faut croire ceci, croire cela, etc. Et nous sommes très bons pour croire juste. Mais lorsque nous parlons de pas simplement donner un message, mais d'être des messagers, d'incarner l'Évangile, il s'agit aussi de vivre juste. C'est pas simplement croire juste, c'est manifester l'Évangile dans notre être. En 2010, j'avais l'opportunité d'être à Cape Town, en Afrique du Sud, pour un congrès mondial d'évangélisation. Et une des choses qui m'a le plus marqué là-bas, c'est de constater à quel point les chrétiens en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, essayent de ressembler à Jésus dans tous les domaines de leur vie. Ils sont dans des sociétés qui sont ravagées par la pauvreté, par la corruption, par le péché, où il y a l'esclavage moderne sous toutes ses formes. Et nous voyons des chrétiens qui, au nom de l'Évangile, vont affronter ces enjeux-là, qui font entendre dans le monde la voix de Dieu en disant « Ceci n'est pas juste, vous ne pouvez pas agir comme cela, vous devez, les riches, prendre soin des pauvres, vous devez donner vos biens pour eux, parce que Christ s'est dépouillé. » Souvent, en Occident, à cause du sécularisme, nous avons quitté les sphères publiques et nous nous sommes retranchés dans nos milieux d'église où nous contentons de dire « Il faut croire ceci, il faut croire cela. » Et si tu ne marches pas comme les pécheurs et si tu ne fais pas ce qui est mal, c'est bon, tu es un bon chrétien. Ça ne finit pas à ça. L'Évangile n'est pas simplement une série de choses que nous ne devons plus faire. C'est aussi la vie de Christ que nous devons incarner dans tous les domaines de notre vie, dans notre compassion pour ceux qui sont pauvres, dans la manière dont nous travaillons tous les jours, dans la manière dont nous répondons à l'injustice qu'il y a dans notre monde. Nous ne pouvons pas dissocier la vérité de l'Évangile de sa mise en pratique. Et quand nous y allons, ce n'est pas « envoyons des Bibles », c'est « nous y allons » comme messagers de Christ, porteurs de l'image de Christ dans tous les domaines de notre vie. Le défi Michée qui traite de ces enjeux de justice à l'échelle mondiale en lien avec l'Évangile a publié une déclaration sur la mission intégrale dans laquelle il est dit ceci. La mission intégrale est la proclamation et la mise en pratique de l'évangile. Il ne s'agit pas simplement de faire en même temps de l'évangélisation et de l'action sociale. Au contraire, dans la mission intégrale, notre proclamation a des conséquences sociales puisque nous appelons à l'amour et à la repentance dans tous les domaines de la vie. Et par ailleurs, notre implication sociale a des conséquences pour l'évangélisation, puisque nous témoignons de la grâce transformatrice de Jésus-Christ. Si nous ignorons le monde, nous trahissons la parole de Dieu qui nous envoie dans le monde. Si nous ignorons la parole de Dieu, nous n'avons rien à apporter au monde. Les deux vont ensemble. D'un côté, l'amour et la compassion, et de l'autre côté, la parole de Dieu. Si nous nous contentons de diffuser des messages lorsque nous allons, nous n'avons aucune crédibilité. Si nous faisons des bonnes œuvres sans diffuser de message, nous n'amènerons jamais personne au ciel. Nous aurons juste des fans. Regardez comme ils sont bien. Et le but, ce n'est pas qu'ils nous trouvent bien, mais qu'ils glorifient Dieu qui est dans les cieux. Dieu nous invite à aller par tout le monde, à aller par toutes les nations, littéralement toutes les ethnies. Aller, c'est bien sûr dans les activités de l'Église. Le thème était l'évangélisation dans l'Église. Je ne suis pas convaincu que ce soit dans l'Église qu'il faille faire l'évangélisation. Mais c'est en dehors, dans le monde, là où Dieu nous envoie. L'évangélisation, ce n'est pas juste dans le programme de l'Église, c'est aussi du lundi au vendredi, là où nous sommes. Non pas en prêchant le lundi matin sur la table de la machine à café au bureau, mais simplement en étant des témoins, en manifestant Christ, en étant prêts à répondre. Un des plus grands défis pour notre temps, c'est que les chrétiens arrêtent de se comporter comme des chrétiens le dimanche et comme des athées du lundi au vendredi. Le monde veut nous faire faire ça. Et pour nous, nous croyons que Christ est Seigneur le dimanche et aussi la semaine. Et ça doit avoir un impact dans nos vies. Aller, c'est aller également là où il n'y a rien. Aller là où l'Évangile n'a jamais été prêché. Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur la flèche droite de l'ordinateur là-bas? Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous connaissez cette carte de France? C'est la carte du nombre d'églises pour 10 000 habitants. Et si vous regardez dans le Rhône, vous êtes plutôt dans les couleurs déjà un peu plus chaudes. Mais il y a encore des endroits où il n'y a rien. Et même dans le Rhône, si on regardait à Lyon, je suis sûr qu'il y a des quartiers entiers, des communautés entières, où il n'y a pas de témoignage chrétien. Et si nous voulons aller en étant des messagers, en incarnant Christ, nous avons besoin que Christ soit visible dans nos vies d'église. Et ça implique qu'il y ait des nouvelles églises qui s'implantent. En particulier pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle 1 pour 10 000, qui présente les objectifs d'implantation d'églises au niveau du CNEF. Et peut-être que vous êtes bien là où vous êtes, que vous avez un bon métier, que votre vie est super et cool. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et pour entendre l'Évangile, ils ont besoin de chrétiens qui manifestent Jésus dans tous les domaines de leur vie et qui vont les rejoindre là où ils sont, comme Christ nous a rejoints. Peut-être que c'est le moment pour vous de réfléchir. Est-ce que je suis vraiment à l'endroit où je suis le plus utile pour la mission que Dieu me donne? Ou est-ce qu'il y a un autre endroit où il n'y a pas de chrétiens et où je peux rejoindre un ou deux autres chrétiens? Où je peux aller aider un pasteur qui est isolé pour être un témoignage chrétien, pour que d'autres puissent entendre. Est-ce qu'on peut appuyer encore sur la flèche suivante? Est-ce que vous connaissez cette carte? Malheureusement, elle est peu connue en France. Tous les points verts, ce sont les ethnies de la terre qui ont quelqu'un pour leur dire qu'il y a un Jésus qui les aime. Les points rouges, ce sont les endroits où il n'y a personne pour leur dire qu'il y a un Jésus qui les aime. Bien sûr, il y a des gens. J'étais en Inde la semaine passée, il y a des chrétiens, il y a des églises. 2% dans un pays de plus d'un milliard d'habitants. Là où il y a encore plus de 500 millions de personnes qui sont dans des tribus, qui n'ont jamais entendu l'Évangile depuis 2000 ans. Jusqu'au début du XXe siècle, les missions se sont préoccupées des nations. Et l'on disait, on doit chercher à atteindre toutes les nations. Aujourd'hui, il y a des chrétiens dans tous les pays. Mais ce que nous avons mal lu, c'est que Jésus ne parlait pas des nations, il parlait de toutes les ethnies. Si devant le trône, il doit y avoir des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation, ça veut dire que chaque tribu doit entendre parler de Jésus. Toute la bande qui est là en rouge, c'est ce qu'on appelle la fenêtre 10-40. Vous partez de l'équateur, vous allez au degré 10, et vous allez au degré 40, et vous tracez une bande. Ça vous donne toute cette fenêtre-là. L'endroit le moins évangélisé du monde. Les deux tiers de la population humaine habitent dans cette zone. Il y a la Chine et l'Inde, ça fait déjà au moins un quart du monde. Là-dedans, il y a la majorité des musulmans, des hindous et des bouddhistes. 86% d'entre eux n'ont personne pour leur dire que Jésus les aime. Qui ira ? Jésus a dit « Allez ». Pourquoi l'Église n'y va pas ? Qui est responsable ? Est-ce que ce sont les missionnaires ? Est-ce que ce sont les institutions d'Église ? Ou est-ce que, comme le montre le texte, c'est aussi chaque disciple ? Ça ne veut pas dire que nous allons tous partir là. Mais ça veut dire que, quelque part, si nous voulons rentrer dans cette mission, notre vie devrait être connectée d'une manière ou d'une autre avec cela. Aujourd'hui, seulement 2% de l'effort missionnaire mondial part dans cette zone du monde. Pourquoi ? Parce que malheureusement, la plupart des missionnaires vont là où les églises les invitent. Et là où il n'y a pas d'église, qui ira planter Christ ? Ça coûte ! Ça coûte ! Il y a 2 ans, je parlais avec un pasteur qui était en Inde, dans cette région ici, l'état d'Orissa. Et il y a eu de telles persécutions par les hindous que les chrétiens ne pouvaient plus annoncer l'évangile. Et au lieu de se taire, ils ont préféré fuir dans la jungle. Et ce pasteur me racontait comment il s'était retrouvé au milieu de la jungle avec sa famille. Parce qu'il voulait continuer à parler de Jésus. Quelle est notre part là-dedans ? Quelle est notre part ? Toutes les générations discutent de comment nous allons achever la mission. Mais ce que Dieu attend, c'est les générations qui vont agir pour la mission. Alors je sais, la France est en jaune, elle n'est pas en verte. En France aussi, il y a des perdus. Mais en Palestine aussi, il y avait des perdus. Et pourtant, Paul est parti. Il avait mis son honneur à annoncer Christ là où il n'avait pas encore été prêché. Et si nous voulons rentrer dans la mission, nous devons avoir le cœur de Dieu pour le monde. Comment pouvons-nous rester assis à mener des vies joyeuses, heureuses, cool, alors que le désir de Dieu n'est pas satisfait ? Nous devons aller. L'évangélisation, c'est une démarche intentionnelle, où nous choisissons de dire « je veux m'engager pour les personnes qui sont perdues », avec le but d'en faire des disciples, les amener à reconnaître Christ comme Seigneur, à se repentir et à croire en lui. Si nous voulons en faire des disciples, ça veut dire que dans l'Église, chacun devrait trouver sa part dans l'évangélisation. Parce que peut-être que ton don, c'est pas d'amener la personne à Christ, mais ça tombe bien, parce qu'il ne s'agit pas de faire uniquement des convertis. Il s'agit de faire des disciples. Donc il va falloir aussi les former, leur expliquer comment vivre, leur expliquer comment à leur tour témoigner. Et pour cela, ça nécessite l'engagement de chacun. Il faut les baptiser, les intégrer dans l'Église dès que possible, pour leur montrer qu'ils sont morts à leur ancienne vie et que maintenant, ils doivent vivre pour Jésus. Il faut leur enseigner à obéir. Je lisais un témoignage de ce qui se passe en Inde, notamment dans le nord de l'Inde. Le sud est la partie où il y a le plus de chrétiens, mais dans le nord de l'Inde, c'est là où il y a le plus de peuples non atteints. Et il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Même si la mission est grande, Dieu est à l'œuvre, il fait des miracles. Et c'est assez intéressant de savoir que dans les mouvements d'implantation d'églises en Inde, aujourd'hui, la majorité des implanteurs sont convertis depuis moins de 5 ans. Je ne sais pas si vous réalisez. Qui c'est qui, ici, est converti depuis plus de 5 ans ? Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pourriez déjà être en train d'implanter une église. Vous savez, quand quelqu'un se convertit là-bas, on le baptise tout de suite. C'est une manière de dire, ton ancienne vie est passée, et maintenant tu es un disciple de Jésus-Christ. Et puis on lui donne une Bible, on lui dit, maintenant tu lis le livre des Actes, et tu mets en pratique, et tu parles de Jésus à ceux que tu rencontres. Et l'évangile se répand de village en village, comme une traînée de poudre. Avec 50 euros par mois, vous pouvez soutenir un missionnaire et sa famille dans le nord de l'Inde. Nous pouvons tous avoir une part dans la grande mission. Ça ne veut pas dire que nous devons envoyer l'argent pendant qu'eux risquent leur vie. Nous sommes appelés aussi à risquer notre vie. Mais même en restant en France, nous pouvons être connectés avec cela. Aujourd'hui, il existe des dizaines de missions qui permettent à des Européens de faire des voyages court terme pour visiter ces chrétiens, voir ce qu'ils font sur place, être stimulés par leur vision, revenir en Occident encouragés et commencer à donner pour agir pour le monde. Vous pouvez en faire partie. Christ invite chacun de nous à rentrer dans cette grande mission pour en faire des disciples, pour les apprendre à obéir. Nous pouvons agir ici, et lorsque nous commençons à agir ici, à partager l'évangélisation entre nous, nous avons aussi envie de la déléguer pour atteindre les extrémités de la terre. Alors bien sûr, ça coûte, mais l'évangélisation est soutenue par Jésus-Christ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons être découragés, nous pouvons dire, mais Seigneur, je suis passé à côté de tout cela. Comment vais-je faire? Mais Christ est avec nous. Il est toujours possible de changer, toujours possible de continuer, parce qu'il est avec nous. Et que dans sa grâce, il s'approche de nous. Et il dit, vas-y, vas-y, vois mon cœur pour les nations, vois mon cœur pour les perdus qui sont à côté de toi, et investis-toi dedans. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'évangélisation ne durera pas toujours, l'adoration durera. Mais l'évangélisation a une date butoir. Jésus revient. Jésus revient. Un jour, Christ va se lever et le monde sera jugé. Tous ceux qui n'auront pas entendu, comme ceux qui auront entendu, seront devant lui. Et Dieu nous demandera aussi des comptes pour ce que nous avons fait. Christ revient. Est-ce que nous restons tranquillement en disant « Christ revient, bientôt tout sera fini et je serai au ciel » Ou est-ce qu'alors nous prenons cette parole de Christ à la lettre, il faut d'abord que cette bonne nouvelle soit prêchée à toute la création. Et nous prenons notre rôle dans cet effort pour nous engager dans la grande mission. Je ne sais pas aujourd'hui quels sont tes rêves, quelle est ta vie, ce que tu as envie de faire plus tard. Mais la question que je voudrais te poser et que tu essayes d'y réfléchir ce week-end, c'est comment ma vie peut être connectée au rêve de Dieu, qui est de gagner pour son Fils des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Ça commence peut-être chez toi, juste là où tu es. Peut-être en donnant simplement 10 euros par mois pour l'évangélisation. Peut-être en invitant ton voisin pour un barbecue et en lui expliquant ce que tu fais le dimanche matin. Peut-être en allant boire une bière avec tes collègues de boulot le soir. Peut-être en déménageant pour aller rejoindre une implantation d'église ou en la soutenant. Peut-être en te renseignant sur ce qui existe dans d'autres pays. Tu te dis, tiens, j'ai tel métier et peut-être que ça pourrait me permettre de déménager dans un pays où les missionnaires ne peuvent pas aller parce que la foi, ça coûte. Pourquoi pas? Nous pouvons tous nous investir dedans. Finalement, le problème avec l'ordre de Jésus, ce n'est pas qu'il est compliqué. Il est extrêmement simple. Allez, allez et dites-leur, parlez-leur. Le problème, ce n'est pas la complexité. Le problème, c'est est-ce que nous sommes prêts à obéir? Est-ce que nous sommes prêts à obéir? J'entendais l'histoire de cette jeune fille en Inde qui s'est convertie et le pasteur lui a prié pour elle, il lui a donné une Bible, il lui a dit voilà, maintenant tu dois lire ta Bible, tu dois prier et tu dois dire à chaque personne que tu croises, ce qu'a fait Jésus pour toi. Et puis, il l'a oublié, la fille est partie. Et puis 2 ans après, il reçoit un courrier de cette fille qui dit « Pasteur, nous avons besoin que vous veniez dans tel village pour nous enseigner à propos de Jésus. Il y a tellement de gens qui veulent entendre parler de Jésus. » Et ce pasteur, qui avait une église d'une 40aine de personnes, se dirige vers cette région de l'Inde. Et lorsqu'il est arrivé, il a constaté que 20 000 personnes voulaient entendre parler de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'une fille a pris ça à cœur et qu'elle a accepté, simplement pour obéir, de dire « je vais parler de Jésus à tous ceux que je croise ». Elle n'avait pas fait d'école biblique, elle était juste jeune convertie, mais elle a accepté d'obéir. Bien sûr, c'est exceptionnel. Bien sûr, on n'est pas appelé à amener tous 20 000 personnes pour entendre l'Évangile. Mais tout ça pour dire que si quelqu'un avec aussi peu de qualifications a pu être utilisé par Dieu pour faire ça, mais nous-mêmes, avec toute la connaissance que nous avons, avec les 10 Bibles que nous pouvons avoir sur notre étagère, dans notre maison, avec tout ce que nous connaissons, nous pouvons l'investir et Dieu l'utilisera. Le fruit appartient à Dieu, mais l'obéissance est de notre côté et nous devons assumer l'évangélisation. Le problème de notre génération, c'est que nous nous contentons de choses trop triviales. Nous rêvons simplement à une vie cool, une vie confortable, où nous allons au travail et nous voulons développer notre confort, avoir une assurance pour notre appartement, une assurance pour notre voiture, une assurance pour notre retraite, une assurance pour notre vie. Et on vit dans cette facilité. Et la réalité, c'est que même s'il n'y a rien de mal dans tout cela, Christ nous invite à prendre un autre chemin. À dire, il y a urgence. Le monde se meurt. Et ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Dépouillez-vous. Rentrez dans cette mission. Est-ce que vous avez déjà visité un cimetière? Quand vous rentrez dans les cimetières, vous voyez les tombes. Et sur chaque tombe, il y a 2 dates. La date de naissance, la date de mort. Et entre les deux, un tiret. C'est tout ce qui est notre vie ici-bas. Un tiret, une vapeur. Et de l'autre côté, il y a l'éternité qui nous attend. Une éternité avec Christ. Une éternité où nous pourrons nous réjouir de ce que Dieu aura fait dans notre vie si nous investissons ce petit tiret pour sa gloire. Ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas ta vie. Ne perds pas ton temps dans des choses triviales. Quoi que tu fasses, donne-le pour l'Évangile. Peut-être que tu es un médecin. Utilise ça pour l'Évangile. Peut-être que tu es le futur Bill Gates. Peut-être que tu as une créativité débordante pour faire des films ou je ne sais quoi. D'une manière ou d'une autre, connecte ça à l'Évangile. C'est trop important, c'est trop précieux. C'est la vie de millions de personnes qui en dépend, ici et partout dans le monde. Je voudrais vous inviter, dans les quelques minutes qui restent, simplement vous recueillir, à méditer ce que vous avez entendu, et à dire pendant ce week-end, « Seigneur, comment est-ce que je peux réorienter ma vie pour être engagé dans ta mission ?» Je voudrais laisser un petit temps de silence et puis je conclurai en priant. Oui Seigneur, merci parce que comme les 11 disciples, tu nous invites à ta rencontre sur la montagne. Et Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Comme eux, nous avons nos doutes, nos luttes, nos combats. Et toi Seigneur, tu as vaincu sur toutes ces choses-là, tu nous donnes cette nouvelle vie. et tu es prêt à t'approcher de nous encore pour nous utiliser, pour nous envoyer dans ta mission. Seigneur, tu connais chacun de nos contextes, nos vies. Tous, à différentes manières, nous sommes dans un monde qui est perdu, où tu nous as placés. Et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici, que nous puissions peser nos vies, peser nos priorités, et être prêts à rentrer dans ce monde comme toi-même tu y es rentré, en nous dépouillant de tout ce qui est superflu, de toute notre richesse, de notre image, de notre amour propre. Non pas que ces choses-là soient vaines, mais parce qu'il y a quelque chose de tellement plus important. Seigneur, que comme des disciples sur tes traces, nous soyons prêts à prendre notre croix, à mourir, à donner de notre temps, de notre argent, à donner notre vie pour l'annonce de ton évangile. Quoi que nous fassions, Seigneur, que nous puissions réfléchir à comment cela peut être connecté à ta mission. Seigneur, souvent quand je regarde l'Église, je me demande, mais ça serait tellement plus simple si à notre conversion, tu nous reprenais là-haut et puis on serait avec toi et ça serait fini. Et tu pourrais le faire, mais tu as choisi de nous laisser ici-bas pour que nous puissions être tes témoins, pour que nous puissions aller dans ce monde, dire que tu es le Sauveur et faire des disciples. Seigneur, je te prie que tu nous aides à rentrer dans cette dimension-là, que pendant ce week-end, nous puissions examiner nos vies et changer d'état d'esprit pour nous reconsacrer pour ta mission. Bénis mes frères et sœurs, accorde-leur du repos, fais-leur du bien pendant ce week-end et qu'ils puissent sortir de là ressourcés, encouragés et avec la volonté de te servir dans ce monde. Amen.